pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Rémi.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le 23 mai et aujourd'hui nous allons parler biologie marine. Plus précisément, nous allons nous intéresser à celle qui peuple le territoire normand.
Et pour en parler, nous serons avec Benoît Véron, biologiste marin, maître de conférence à l'université de Caen.
Mais avant cela, c'est les infos sciences de la semaine.
La mission Axiom 2 vient de décoller. À son bord, deux astronautes saoudiens, dont Rayana Barnaoui, qui devient officiellement la première femme saoudienne à aller dans l'espace.
Et oui, on vous l'a déjà présentée il y a quelques semaines à l'occasion de sa sélection, mais cette fois, ça y est, elle vient de décoller de Cap Canaveral, direction l'ISS, où elle passera 10 jours. Elle est accompagnée de trois autres astronautes, son compatriote Ali Al-Karni, et les Américains John Schaffner, pilote de la mission, et Peggy Whitson, qui a déjà passé 665 jours dans l'espace.
Mais quel est le but de cette mission ?
Eh bien, il est déjà important de préciser que c'est une mission privée organisée par Axiom Space. L'équipe travaillera au sein de l'ISS aux côtés de 7 autres astronautes déjà à bord. Ensemble, ils mèneront des recherches scientifiques indépendantes. L'une est par exemple organisée par le TRISH, un organisme qui se donne pour objectif de mieux comprendre comment les membres d'équipages inexpérimentés réagissent lorsqu'ils sont confrontés pour la première fois à la microgravité. À long terme, ça n'est pas un secret, Axiom souhaite développer le tourisme spatial. Une solution pour lutter contre la pollution plastique, des chercheurs ont découvert des champignons et des bactéries dévoreuses de polyester et de polyuréthane.
Oui Simon, le recyclage du plastique est aujourd'hui très limité, même en France, dans le monde seulement 9% des déchets plastiques sont recyclés, en France cela monte à 25%. La solution se trouve peut-être sur la côte est de la Chine, à Dafeng, où 240 espèces de champignons et de bactéries ont été découvertes en train de grignoter du plastique.
Mais comment est-ce que ces organismes arrivent à manger des déchets comme ça ?
Eh bien tout fonctionne grâce à la chimie et aux enzymes qui produisent ces bactéries. Les enzymes dégradent le plastique et elles ne le détruisent pas complètement et le décomposent en molécules infimes qui peuvent être utilisées pour créer des nouveaux objets. Un recyclage chimique donc rapide qui accélère le processus de dégradation du plastique qui met des dizaines d'années à disparaître. En 10 ans, le nombre de bébés prématurés n'a pas diminué, une donnée qui inquiète l'OMS.
Et oui, 13,4 millions, c'est le nombre d'enfants prématurés nés en 2020, ça fait quand même 1 sur 10. L'OMS souhaiterait voir ce chiffre diminuer car les naissances prématurées sont la première cause de mortalité avant l'âge de 5 ans dans le monde. Environ 1 million d'enfants en meurent chaque année.
Et tous les pays ne sont pas égaux face à cette mortalité infantile.
Et non, globalement, il est rare que des enfants prématurés meurent dans les pays riches. 90% des bébés nés à 6 mois de grossesse survivent, alors que dans les pays pauvres, le chiffre tombe à 10%. Et le problème, c'est que ce sont globalement ces pays pauvres qui comptent le plus haut taux de naissance prématurée. Le Bangladesh est en tête avec 16,2%, suivi du Malawi et du Pakistan, avec leurs 14,5% et 14,4%. Une usine près de Paris va ouvrir pour produire des prothèses cardiaques innovantes qui s'inspirent de la nage ondulante des poissons.
Oui, c'est une start-up française, CoreWave, qui s'installe à Clichy dans les Hauts-de-Seine pour accueillir 70 ingénieurs dans un espace de 2400 m2, issus de différents secteurs, la F1, l'horlogerie, l'aéronautique. Les salariés de cette usine flambant neuve vont s'affairer à produire des prothèses à destination de patients atteints d'insuffisance cardiaque.
Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces prothèses ?
Oui, aujourd'hui, les dispositifs existants présentent certains problèmes, comme le fait de produire un débit continu qui peut provoquer des AVC et des hémorragies internes, de ne pas s'adapter aux activités quotidiennes, le jour, la nuit, le sport. La start-up CoreWave promet de régler ces problèmes en s'inspirant de la nage ondulante des poissons, une technique qui pourrait permettre à la pompe de mieux s'adapter à la physiologie des patients et de réduire le taux de complications de moitié, une innovation attendue par les 1,5 million de Français touchés par des insuffisances cardiaques. On vous en avait parlé, Hari Boudamagar, ce Népalais amputé des deux jambes, vient de réussir son exploit, gravir l'Everest.
Et oui, vendredi dernier, aux alentours de 15h, cet ancien soldat de la guerre d'Afghanistan est parvenu avec son équipe à se hisser sur le toit du monde. Alors, ça n'est pas son premier exploit, car grâce à ses prothèses de jambes, il avait déjà escaladé d'importants sommets, comme par exemple le mont Topkhal, le Ben Nevis ou encore le Mont Blanc.
Et Hari Boudamagar entre donc dans l'histoire.
Et oui, forcément, car outre l'exploit, c'est la première fois qu'une personne amputée des deux jambes au-dessus du genou arrive à gravir l'Everest. Cependant, deux autres doubles amputés en dessous du genou cette fois-ci ont déjà réussi la performance avant lui. Il s'agit du chinois Xiaobo Yu en 2018 et du néo-zélandais Mark Inglis en 2006.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Comme on le sait tous, la Normandie est une région maritime et forcément, elle possède une biologie bien particulière.
Mais cette biologie marine est parfois méconnue et nous réserve toujours des mystères. Mystères que tente de résoudre le CREC, le Centre de Recherche et Environnement Côtier. Ce laboratoire s'intéresse à l'étude des écosystèmes et des organismes avec des approches innovantes pour mieux comprendre la complexité du vivant et l'évolution du milieu marin.
Et justement aujourd'hui, c'est de la biologie marine normande dont nous allons parler avec notre invité Benoît Véron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Caen et biologiste marin au sein du laboratoire Boréa. Vous êtes d'ailleurs de temps en temps au CREC. Pour commencer, est-ce qu'on peut faire un état des lieux sur les différentes espèces qui peuplent les côtes normandes?
Alors on va retrouver sur les côtes normandes toutes les espèces de l'Atlantique Nord. Tant animal que végétal, champignons, bactéries, virus. Et il y a beaucoup d'espèces qui sont exploitées parce qu'il y a beaucoup de ports commerciaux dans la région, Granville, Cherbourg et autres, ports en Bessin bien entendu. Donc on peut parler des espèces commerciales, mais ce ne sont pas les seules, ce sont elles qui attirent évidemment... les regards du fait de l'activité économique, mais il y a aussi des espèces qui sont très discrètes, mais qui ont une importance écologique aussi.
Est-ce que ces espèces discrètes, elles sont typiquement de la région normande ou on peut les retrouver dans d'autres régions?
Alors typiquement de la région normande, à ma connaissance, non, parce que, on va dire, si on reste sur les côtes françaises, entre Brest et Lille, on est à peu près dans le même environnement. Donc des espèces typiques de la région, je dirais non. Après, des espèces plus présentes que dans d'autres régions, oui, mais spécifiques, non.
Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux qui vont particulièrement favoriser l'apparition de ces espèces en Normandie?
Alors l'apparition, non. La présence...
Oui, ou la présence ou la prolifération.
Ouais, influencer en tout cas leur répartition. On a quand même un très grand estuaire avec l'estuaire de la Seine, qui a un bassin versant très important. On a d'autres petits estuaires, enfin plus petits, pas loin d'ici, l'estuaire de l'Orne à Ouistreham, on a la BDV également, rien que pour parler des côtes du Calvados. Donc oui, c'est un facteur, ces estuaires sont des facteurs très influençants. Et puis, on a aussi ce English Channel, la mer de la Manche, où là, évidemment, il y a des très grands mouvements de masse d'eau et une activité commerciale, maritime, très très importante.
Et c'est cette masse d'eau en particulier qui est responsable, et aussi des données de température ou autres qui vont faire que certaines espèces vont être là ou pas?
Alors, on anticipe une modification de la répartition de certaines espèces due notamment au réchauffement climatique. Ça commence à être assez bien modélisé, assez bien perçu sur ce qui va se passer dans les décennies. Très, très certainement, il va y avoir des modifications de répartition. La masse d'eau va se réchauffer, donc des espèces vont devoir migrer dans des environnements qui conviendront mieux à leur reproduction, voire à leur survie.
Pour parler un peu de votre rôle de chercheur, comment est-ce qu'aujourd'hui on repère et on étudie toutes ces espèces qui prolifèrent sur la côte normande?
Alors, ça dépend où les espèces vivent. Ça va être ça qui va vraiment conditionner la méthode d'étude. Si on va prendre le cas de poissons ou de seiches ou de calmars, qui sont des organismes étudiés au laboratoire, là, évidemment, on a besoin des outils de la pêche. Très majoritairement, une très bonne relation avec les pêcheurs, avec des collègues qui embarquent sur la flottille de pêche pour faire leurs prélèvements, leurs études nécessaires pendant qu'il y a l'activité de pêche chalutière. On peut imaginer la même chose pour les poissons, on peut imaginer la même chose pour des animaux qui vont être dragués au fond de la mer, type coquille Saint-Jacques. Si ce sont des espèces plus littorales et qui vivent, qui sont accessibles à marée basse, là on peut presque y aller à pied, ce qui est mon cas. Donc vraiment c'est le lieu de vie des organismes qui va déterminer les moyens qu'on met en place. On a au CREG, vous le citiez en introduction, des moyens appartenant à l'université pour nous permettre d'accéder à certains environnements. Typiquement, on a des petits navires qui vont nous permettre de faire des petites campagnes je dirais plus modestes que ce qu'un gros bateau de pêche est capable de faire.
Mais donc les recherches, elles vont surtout se faire via du prélèvement, du recensement ?
Beaucoup. On peut faire de l'observation in situ, sans prélèvement, in situ, je veux dire, sur place, sans prélever. Mais pour des biologistes, il y a un moment, il faut qu'on prélève, parce qu'on veut regarder, voir les organismes, la biologie, hein, c'est la science du vivant. Il y a un moment où on prélève pour soit mesurer des paramètres ex situ cette fois-ci, c'est-à-dire on reconditionne en laboratoire, pour créer des environnements spécifiques pour voir la réponse, par exemple, d'un organisme à une modification de son environnement.
Et durant ces prélèvements, est-ce que vous sentez même une différence entre typiquement la Seine-Maritime et le Calvados ? Est-ce qu'il y a une différence même à l'intérieur des régions, des départements ?
Non, pas vraiment.
Ça reste quand même homogène sur toute la côte normande ?
Oui. Ouais. Il y a une différence de topographie. Les grandes falaises du Pays de Caux, on ne les a pas évidemment à Luc-sur-Mer ni à Port-en-Bessin. Donc il y a une différence de topographie, mais globalement, la répartition des espèces va être micro-localement modifiée, mais à une échelle appréciable, soit d'une quantité, soit d'une diversité, soit d'une capacité d'exploitation, par exemple. Je dirais non.
Mais par contre, par rapport aux autres côtes nationales, par exemple, je sais pas, la côte méditerranéenne, là aussi, on va avoir des différences ou ça reste quand même aussi relativement proche ?
Non, il y a des grandes différences de population. Je vais prendre un cas très simple que tout le monde peut apprécier si on est déjà allé sur les côtes méditerranéennes, par exemple. Il suffit de prendre un masque et un tuba en partant de la plage et de voir des très grands, ce qu'on appelle des herbiers de Posidonie, qui ont été très médiatisés il y a une vingtaine d'années parce que ces herbiers, qui sont des zones de frais pour les poissons, des zones d'abri pour les poissons et beaucoup de mollusques benthiques, c'est-à-dire qui vivent sur le sol, ces herbiers ont été concurrencés par une algue qui, paraît-il, s'est échappée de l'aquarium de Monaco, la Colerpe. Ça a été très très médiatisé. Et ces herbiers de Posidonie sont vraiment emblématiques de toute la côte nord méditerranéenne, donc une partie...
On ne va pas la retrouver chez nous.
On ne la retrouve pas chez nous, elle n'existe pas chez nous. Chez nous, on a une autre espèce appartenant à la même grande famille de plantes. Là, ce sont vraiment des plantes, ce ne sont pas des algues. Chez nous, ce sont les austères qu'on va trouver sur les côtes de la Manche, qu'on retrouve un petit peu ici. Donc là, vraiment, il y a des clivages très importants de population. De même, nous, on a des espèces de poissons qu'il n'y a pas en Méditerranée, etc., etc.
Et d'ailleurs, est-ce que ça vous arrive de repérer et étudier des nouvelles espèces ? Est-ce que ça arrive souvent que des chercheurs découvrent des nouvelles espèces chaque mois, je ne sais pas ?
Alors oui, tous les jours, à travers le monde, il y a des nouvelles espèces qui sont décrites. Quand je dis décrites, s'il n'y a pas de description, l'espèce n'existe pas biologiquement. Donc oui, on découvre de nouvelles espèces assez régulièrement. J'ai contribué à la révélation, à la description de nouvelles espèces cette année. Ouais.
Est-ce que la biologie marine, en Normandie en particulier, elle a évolué au cours de l'histoire ? Est-ce qu'on retrouve les mêmes espèces qu'il y a 100, 200, 300 ans ? Ou 1000 ans ?
Alors 1000 ans, c'est difficile à dire. Il y a des espèces introduites. On en connaît un certain nombre.
C'est-à-dire introduites par l'homme ?
Introduites par l'homme, directement ou indirectement, on en connaît ici parce qu'on sait dater très précisément la période de l'introduction et faire un lien avec la méthode d'introduction. Par exemple, la sargasse, on connaît la mer des sargasses au large des Caraïbes. Il y a des sargasses chez nous qui sont très connues depuis longtemps. Mes grands-parents... qui aujourd'hui aurait 100 ans la connaissait, il se rappelle l'avoir vue apparaître, ici en Normandie. Elle a été introduite, on le sait, par du naissin d'huître venant du Japon. Donc c'est une méthode, on connaît la technique, on connaît la période, il y a eu un besoin de faire venir du Japon du naissin d'huître, donc des bébés huîtres, pour les élever ici, et je dirais dans le paquet, il y avait des petites plantules d'algues qui se sont trouvés très bien ici, qui sont installés ici. Ça, c'est un cas. L'autre cas, c'est la crépidule, que vous connaissez peut-être aussi, qui a un coquillage un peu bizarre, qui a une forme de dôme, et ils se montent les uns sur les autres, comme dans un immeuble. Cette crépidule, on le sait, a été importée des États-Unis au moment du débarquement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle était accrochée sur les coques des bateaux, venant directement des États-Unis via les côtes anglaises. L'espèce est introduite par ce biais-là, ici.
Et elles ont des risques de devenir envahissantes, de faire du tort ou même de faire disparaître des espèces autochtones ?
Possiblement, oui. Je dirais comme toute introduction. Après, bien souvent, il y a une régulation des populations. Quand des espèces s'introduisent, il faut qu'elles s'adaptent, sinon elles ne survivent pas.
Oui, elles ne sont pas toutes capables de rester comme celles que vous avez citées tout à l'heure.
Non, exactement. Celles qui restent, c'est celles qu'on réussit, entre guillemets. Il y en a peut-être d'autres qui sont introduites tous les jours, mais qui meurent. Donc on ne les voit pas. Donc oui, la compétition peut exister au détriment d'espèces endémiques, c'est possible. Mais bien souvent, quand on le constate qu'il y a une espèce... néo-introduite, elle est déjà installée.
On parle ici d'espèces introduites. Est-ce qu'il peut y avoir des évolutions, pour notamment parfois au réchauffement climatique, où les espèces ont besoin de s'adapter et ça crée de nouvelles espèces? Est-ce que c'est possible ça, d'évoluer, je ne sais pas, dans une centaine d'années, en un siècle?
Alors fondamentalement, oui, sauf que le temps de l'évolution est beaucoup plus lent que ça pour des organismes biologiques. Qui dit évolution dit en gros général modification des gènes, des génomes, de la physiologie qui va en découler. Et ça, c'est un processus qui prend beaucoup plus de temps que cela. C'est bien là le problème du réchauffement climatique actuel qui est très rapide sur la planète. Alors qu'il y avait déjà des organismes vivants, il y a eu des périodes de modification profonde du climat. Des espèces ont totalement disparu, d'autres sont apparues, mais sur des processus qui prennent des millions d'années.
Et est-ce que les habitats aussi ont changé? Pas forcément du coup, là on parlait de réchauffement climatique, mais pour d'autres raisons, par exemple la géologie a évolué ou ce genre de choses, qui et du coup derrière, ça a amené à un changement de biologie?
Alors surtout c'est surtout l'homme qui influence le milieu. La géologie en tant que telle, s'il n'y avait pas l'homme, alors là on n'est plus sur des périodes de millions d'années, on est sur bien plus de temps que cela. L'homme est un grand modificateur de l'environnement. Il suffit de se promener sur tous les littoraux français et autres pour voir qu'il y a des ports, des digues, des habitations, des éoliennes. Donc la principale modification de l'environnement est due à l'activité de l'homme qui construit et déconstruit très peu.
Donc l'activité humaine menace beaucoup d'écosystèmes. Quelles sont les espèces qui sont menacées aujourd'hui sur le territoire moment? Est-ce qu'il y en a vraiment qui sont menacées d'ailleurs?
Je ne vais pas dire menacées, je veux dire modifiées. Modification n'est pas obligatoirement une menace, ça peut être une opportunité. Il y a des espèces qui sont, oui, on peut dire menacées. Je vais reprendre l'exemple du bulot, qui, si les eaux se réchauffent très rapidement, et probablement ça sera le cas, l'espèce va devoir remonter vers des eaux plus froides pour assurer sa reproduction. Donc, possiblement, entre Granville et Cherbourg, les eaux françaises, sauf la partie des îles anglo-normandes, cette espèce risque de devoir remonter, aller au sud de l'Irlande, voire au nord de l'Écosse, et peut-être encore plus haut, et donc ne plus être présente sur notre territoire.
On continue de parler avec vous, Benoît Véron, mais avant, je vous propose de faire une petite pause musicale. On écoute tout de suite Metro Verlaine et son titre Funeral Party sur Radio Phoenix.
Thank you.
l'instant, c'était Metro Vernal Funeral Party sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est pas faux et on continue notre discussion sur la biologie marine normande en compagnie de Benoît Véron, maître de conférence à l'université de Caen. On a parlé en introduction de la pêche. Comment est-ce que la pêche a un impact sur la biologie normande ?
Pour un biologiste, la pêche, c'est sortir du milieu de vie, la mer en l'occurrence, des organismes, et pas les sortir de manière discrète, c'est les sortir souvent de manière massive, parce que derrière, il faut alimenter des populations humaines, etc., etc. Cette pêche est très régulée, afin de préserver les espèces. On entend régulièrement que ou l'État français ou la Commission européenne met des quotas de pêche, et on entend les conséquences que ça a par l'expression notamment des pêcheurs ou des regroupements de pêcheurs sur leur activité économique, etc., etc. Donc, plus, imaginons que l'on pêche toutes les coquilles Saint-Jacques de la baie de Seine, bon, il n'y en aura plus, c'est simple. On peut se dire, elles reviendront. C'est comme les pissenlits sur la pelouse, on les enlève tous, et puis merci les voisins de ne pas les avoir enlevés. Trois ans après, les pissenlits sont revenus. On peut penser ça. Sauf que c'est très hypothétique, et sur des espèces exploitées, puisqu'il y a pêche, si on prélève tout, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'activité économique. D'où ces quotas, etc., pour essayer de réguler les populations, ne pas prélever en période de reproduction, afin de permettre, et puis des tailles de pêche, afin de permettre une génération future pêchable. Si on prélève tous les parents, tous les bébés, il n'y a plus personne, quoi.
Oui, donc la surpêche, j'imagine, c'est encore pire.
Oui, la surpêche, c'est pêcher plus que ce qui est tolérable pour la survie des espèces. Donc, en France, c'est très réglementé. Les professionnels, à ma connaissance, respectent strictement la réglementation. Et les espèces sont bien régulées. On a vu cette année, c'est l'automne dernier, beaucoup plus de coquilles Saint-Jacques mises à disposition du consommateur. Très bien, ça veut dire que il n'y a pas eu, il y a trois ans, une surexploitation des gisements de coquilles Saint-Jacques.
Pour parler un peu de ce qui influe sur la diversité des espèces sur les côtes normandes, est-ce que la topographie en fait partie ? On en avait juste un peu parlé au début. Comment la topographie peut influer sur la diversité de la biodiversité normande ?
Entre un fond marin qui va être tout plat, totalement sableux, par exemple, où les espèces vont avoir du mal à s'installer, parce que le sable c'est mouvant, donc c'est très difficile de s'accrocher sur quelque chose qui bouge. En plus, les grains de sable, quand ils se frottent, écrasent des espèces. On s'imagine dans un sac de billes, au milieu d'un sac de billes, et que le sac de billes est fortement secoué. Bon, évidemment, toutes les espèces ne vont pas être capables de résister. Donc, imaginons cet environnement-là versus un environnement où on va avoir un substrat totalement rocheux, un fond totalement rocheux, donc très dur, très lisse. Certaines espèces pourront s'y accrocher. À l'inverse, si on imagine celui qu'il y a au large, ici, des côtes du Calvados, par exemple, un grand plateau calcaire et beaucoup d'anfractuosité, d'autres espèces pourront s'installer aussi. Donc, effectivement, la topographie influence profondément le type d'espèces et leur répartition.
Donc, il y a vraiment une grande diversité en fonction de si on est plus près du bord ou plus loin du bord.
Oui, et de la côte. Ouais.
Et de la côte, ouais.
Une grande diversité, une répartition naturelle des populations, comme dans une forêt. Si vous êtes au cœur de la forêt, vous avez les grands arbres, voire quelques clairières de temps en temps. Si vous êtes en bordure de forêt, on va appeler un sous-bois par exemple, vous avez d'autres espèces. Donc il y a aussi un équilibre et un partage du territoire entre espèces avec des besoins et des adaptations très spécifiques pour vivre à tel endroit ou à tel autre.
Alors, faut rappeler quand même votre spécialité, ce sont les algues.
Oui.
On voit souvent apparaître des algues vertes qui s'échouent sur les plages l'été. Comment on peut expliquer ce phénomène et est-ce que ça a un impact sur la biodiversité ?
Alors, l'impact sur la biodiversité, oui, mais temporairement. Parce que ce phénomène des marées vertes est un phénomène qui ne dure pas toute l'année. L'hiver, il n'y en a pas. Il n'y a pas de phénomène de marée verte. Ce qui ne veut pas dire que les algues ne sont pas là, qu'elles ne sont pas en situation de latence, c'est-à-dire d'attendre des conditions favorables. Ces conditions favorables à leur prolifération et surtout à leur accumulation, parce qu'il faut qu'il y ait les deux processus pour qu'il y ait un phénomène visible par l'homme, le phénomène étant les marées vertes, c'est-à-dire cette impression de voir qu'il y a des algues en très très grande quantité, tant que l'homme ne voit pas, qualifie pas le phénomène. Donc il faut qu'il y ait d'une part prolifération, c'est-à-dire multiplication du nombre d'individus, et accumulation, parce que si les individus algues se multiplient puis qu'ils sont dispersés dans l'océan, on va rien constater. Donc ça, c'est deux phénomènes importants, prolifération et accumulation. Et chacun de ces deux éléments est assez connu. La prolifération est due, ça ce n'est plus discuté, par les apports terrigènes, les apports qui viennent du continent, essentiellement des nitrates, des phosphates, donc venant de l'activité humaine à terre. Très majoritairement, ce ne sont plus les eaux domestiques. Aujourd'hui, les eaux ménagères qui sont en très grande partie recyclées, purifiées avant d'être rejetées dans l'environnement, majoritairement, ce sont les excédents d'engrais agricoles qui sont déversés sur les champs en trop grande quantité, qui ne peuvent pas ou qui ne sont pas absorbés par les plantes de grande culture. Tout arrive à la mer et les algues vertes en question, qui sont les ulves, sont très opportunistes et très compétitives pour capter beaucoup plus vite que les autres algues, ces éléments-là. Donc elles sont les premières, elles sont opportunistes, donc elles les captent et donc elles prolifèrent. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément que je citais préalablement, c'est l'accumulation. Il faut qu'il y ait un environnement confiné pour éviter la dispersion des algues dans l'océan. Ces environnements confinés, c'est soit une crique naturelle, où le mouvement d'eau vers l'océan est assez faible, soit une artificialisation type port. Avec, on peut imaginer le port artificiel de la Romanche qui reste un peu en place. Il faut l'imaginer dans son état en 1950, par exemple, où il était encore certainement en bon état, où là, ça crée clairement un confinement, donc une absence totale de dispersion des espèces, donc accumulation des espèces, donc phénomène de marée verte.
Et les conséquences de cette marée verte sur la biologie, ça va être quoi ?
Alors, pour la biologie des algues, on est dans un phénomène où une espèce se met à totalement dominer.
Ça a dominé sur les autres algues.
Sur les autres algues. Comme elles sont opportunistes, ce que je disais, elles captent les nutriments qui ne sont plus à disposition pour les autres, donc ce qui va limiter la croissance et le développement des autres. Et puis, comme ces algues flottent, c'est aussi une particularité de ces marées vertes, elles créent un ombrage à la surface de l'eau, ce qui veut dire qu'il y a moins de lumière qui va pénétrer plus profondément. Pour les algues qui vont être en dessous, bien, elles ont moins de lumière, qui est un facteur évidemment nécessaire à leur développement.
Et est-ce que ce genre de phénomène va du coup, à cause du réchauffement climatique ou de l'agriculture intensive, c'est des phénomènes qui vont être plus fréquents ou peut-être même qui vont s'étendre d'un mois, je ne sais pas, vers mars et puis s'étendre jusqu'à septembre, octobre. Est-ce que c'est possible ça ?
On peut l'envisager, oui. Tout à fait. Un des facteurs déclenchants de la prolifération des algues, de ces algues vertes, puisque c'est un phénomène qui apparaît en printemps, fin de printemps, bien souvent. Si, comme on l'entend en ce moment, il fait 4 degrés de plus à la fin du siècle, le printemps va être avancé, on peut l'imaginer. En tout cas, au moins d'un point de vue thermique. Donc oui, possiblement, ce phénomène apparaîtra plus tôt et disparaîtra plus tard.
Et ces phénomènes d'algues vertes, on les retrouve souvent dans la région ou c'est un peu plus occasionnel, un peu plus rare ?
On les trouve de plus en plus souvent.
L'érosion est un phénomène qui touche malheureusement nos côtes. Sur la biologie marine, sur les algues, est-ce que ça a un impact ? Est-ce qu'on va retrouver moins d'espèces à cause de l'érosion ? Ou alors ça n'a pas de rapport ?
Alors s'il y a érosion, ça veut dire qu'il y a modification du substrat pour la vision qu'on a, nous, des biologistes, c'est-à-dire de la surface sur laquelle les organismes peuvent s'installer temporairement ou définitivement. Donc, c'est comme si vous ratissez l'allée du jardin, vous enlevez toute la pellicule superficielle de substrat, donc les espèces se trouvent déstabilisées, voire totalement évacuées. Donc ça, pour une érosion à petite échelle, qui est un processus naturel à petite échelle. Si ce sont des falaises entières qui tombent dans la mer, là on est sur une grande échelle et possiblement, on peut imaginer sur des dizaines, des centaines, peut-être plus, de mètres de côte, que l'endroit soit totalement modifié et donc il n'y ait plus de possibilité à court terme, pour des espèces de s'y installer. Voilà, c'est le ratissage de l'allée du jardin. Si vous ratissez tous les jours ou si vous ratissez tous les 5 ans, évidemment, vous n'aurez pas du tout la même répartition de population végétale ou animale.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place pour protéger la biologie marine face à tous les phénomènes qu'on a cités tout à l'heure, l'érosion, le réchauffement climatique, etc. Est-ce que vous, d'ailleurs, en tant que chercheur, vous participez à cette protection ou pas du tout ?
Alors, protection, pas réellement. Nous, on va être plus dans l'étude et la description de phénomènes existants ou être dans la prédiction. Un collègue au laboratoire qui travaille là-dessus. Sur des faits et avec une extrapolation temporelle en disant dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans. Les mécanismes de protection, c'est autre chose. Ça doit correspondre à une décision politique. Le type de protection, enfin, protection ou pas protection, et le type de protection. Nous, on ne travaille pas du tout dans cet axe-là. On est plus dans proposer des scénarios de choses qui peuvent être avérées ou constatées plus tard.
Juste pour terminer, cela fait 25 ans maintenant que vous êtes enseignant-chercheur à Caen. Est-ce que vous avez senti une différence d'approche de l'étude de la biologie marine au regard des enjeux climatiques ?
Alors oui, la réponse est presque dans votre question. Quand moi j'ai commencé, c'était un vague sujet dont les climatologues, quelques physiciens prédisaient qu'il allait se passer quelque chose. Aujourd'hui, c'est un fait quotidien. Oui, au cours des 25 ans, c'est devenu une donnée pour nos études. Après, en tant que citoyen, aussi, on n'est pas totalement déconnecté entre notre vie citoyenne et notre vie scientifique. Moi, je travaille pas dessus, mais il y a pas mal de collègues au laboratoire Boréa qui travaillent dessus. L'implantation du parc éolien sur nos côtes va créer beaucoup de modifications du littoral, et donc j'ai des collègues qui travaillent sur les impacts que cela va avoir sur la biologie, parce qu'on reste un laboratoire de biologie et pas d'océanographie.
Merci beaucoup Benoît Véron d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Je rappelle, vous êtes maître de conférence à l'université de Caen et biologiste marin au laboratoire Boréa. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Merci encore à Benoît Véron d'avoir répondu à nos questions. Notre émission touche bientôt à sa fin, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Et on commence avec le Dôme qui organise demain à 14h un atelier fabrique à stickers sur le thème des oiseaux. L'occasion de vous initier au logiciel Inkscape, d'apprendre à effectuer une découpe vinyle et de fixer votre sticker sur un papier transfert pour pouvoir le coller où vous le souhaitez. Et d'ailleurs le Dôme organise un autre événement sur le thème des volatiles. On vous propose ce samedi à 14h de participer à une opération de comptage des oiseaux de jardin. Une occasion d'apprendre à identifier les différentes espèces présentes en Normandie. Pour plus d'informations, pour vous inscrire à ces ateliers, rendez-vous sur le site ledôme.info.
Et comme à chaque numéro, nous vous recommandons un reportage. Cette semaine, un documentaire sur la menace des débris spatiaux. 150 millions, c'est le nombre de débris qui naviguent en orbite à une vitesse folle. Ils menacent à tout moment de retomber sur Terre ou de percuter des satellites ou même l'ISS. Le nettoyage de l'espace représente aujourd'hui un enjeu majeur pour continuer à utiliser notre GPS, faire des transactions financières ou prédire la météo. Alerte en orbite, la menace des débris spatiaux, c'est jeudi 25 mai à 21h sur France 5.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emmanuel qui réalisait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. Dans quelques instants, vous retrouvez Chloé pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.